bon, pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Grégor. Chaque semaine, sur l'Égo des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Je crois que ce soir, on va essayer de décrypter le projet de loi.
Oui, la semaine dernière, on avait commencé à essayer de tirer une réflexion sur ce mouvement si particulier qu'on qualifie déjà d'historique. Alors, au grand mot, on verra bien ce qu'il y a dedans, mais en fait, on s'est aperçu que finalement, on parlait assez peu du...
De la loi en elle-même, c'est-à-dire à quelle sauce on allait être mangé. Alors, d'abord, un premier problème, c'est que cette loi qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trous dedans qui vont être remplis par des ordonnances. Donc, c'est déjà assez difficile d'avoir une analyse globale de cette loi, même si fondamentalement, on sait à peu près ce qui va en ressortir, c'est-à-dire travailler plus longtemps, être payé moins, et si possible, éventuellement, même crever avant d'être à la retraite, ça serait même beaucoup...
C'est bien parti, puisque quand tu regardes bien, la moyenne qui ne change pas des gens est de 63 ans en bonne santé. Hein, ouais. L'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans. Or, ils vont nous faire bosser jusqu'à 64, 65, 66, 67. Donc voilà quoi.
Et d'autant plus sur la pénibilité et sur la mortalité au travail, on a quelques éléments qui sont vraiment, comment dire, extrêmement caractéristiques d'une politique de classe, puisque, titre d'exemple, hein, on nous propose de cumuler des points de pénibilité qui permettront de se reconvertir à partir d'un certain âge, c'est-à-dire 46, 47, 50 ans, pour ensuite aller vers d'autres carrières. À savoir que, par exemple, dans le BTP, hein, à 52 ans, c'est un peu les chiffres qu'on a, puisque en plus aujourd'hui, ce travail d'études et ce travail, on va dire, statistique sur la pénibilité au travail n'est malheureusement pas fait. C'est pas un choix et c'est pas des données qui sont utilisées par les instances de l'État et qui sont pas étudiées. Par exemple, donc je reprends ce que je disais, dans le BTP, à 52 ans, on sait que 70% des gens qui travaillent et qui ont une carrière de plus de 20 ans dans le BTP sont handicapés. Hein. Ouais. Donc c'est pas à cet âge-là qu'on va se reconvertir et devenir, je ne sais pas, informaticien, maraîcher, etc. Enfin bon, voyez
maraîcher, je te signale que c'est
pénible. Oui, ça fait c'est pénible aussi,
physiquement.
Ouais, c'est vrai. Tu sens le mec qui a pas l'habitude de planter des légumes, quoi. Cette loi, elle est énorme, elle est très importante, elle est, on l'a dit, significative d'une politique de classe. Et nous, ça fait quand même quelques semaines qu'on a la tête dans le guidon, on n'a pas trop regardé, on n'a pas eu le temps d'étudier ça. Alors, il y a des gens qui se sont attelés à essayer de décortiquer et de comprendre ce qui se passe. C'est le cas d'Agathe, de la personne qu'on va entendre ce soir, qui est membre du collectif Retraite, hein, et qui a quelques-uns et quelques-unes ont décidé d'essayer un petit peu de comprendre et d'expliquer, parce que certes tout le monde sent bien que Macron va nous la faire à l'envers et le gouvernement n'est pas là pour nous aider, mais sur ce que peut être une retraite, sur ce que signifie le salaire différé et même au-delà de ça l'organisation de ce système d'assurance retraite, d'assurance maladie, en fait toute l'architecture dans laquelle le salariat est pris aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de gens ignorent ou méconnaissent un petit peu l'organisation réelle, ne serait-ce que simplement à lire une fiche de salaire, hein, c'est assez catastrophique, ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Alors voilà, on a décidé de vous passer une vingtaine de minutes d'explications qui ont le mérite d'être claires, limpides et très pédagogiques, et puis ensuite on reviendra encore sur ce mouvement et puis sur le voir si on a des questions là-dessus. Voilà.
Le collectif Nos Retraites. Donc dans ce collectif, à vos côtés, on trouve une graphiste, une syndicaliste, un économiste et j'en passe. De par votre site internet, vos réseaux sociaux, un point ressort, expliquer la réforme de façon simple. Vous compilez les informations, vous les vérifiez, vous décryptez les discours de manière pédagogique. Alors pourquoi vouloir l'expliquer? Est-ce qu'elle est si compliquée, cette réforme?
Oui, c'est une réforme qui a été rendue volontairement technique et compliquée à comprendre par le gouvernement. On le voit depuis le début du débat, hein, les termes qui sont utilisés dans le débat public par le gouvernement, par les soutiens à la réforme, donc notamment la majorité gouvernementale, sont des termes qui sont très techniques. On parle d'âge pivot, on parle de valeur du point. C'est difficile de rentrer dans ce sujet des retraites. C'est une manière très habile pour le gouvernement de masquer les vrais enjeux. Notamment, vous en avez parlé, l'enjeu de la baisse du niveau des pensions. Pour nous, c'était très important de pouvoir donner les clés aux gens de ce débat, aussi de redonner la confiance aux gens de parler de la question des retraites sans nécessairement tout maîtriser au sujet technique. Il faut que les gens se sentent autorisés, légitimes à parler de ça, puisqu'il s'agit de nos vies, de notre avenir. Donc, tout le monde a le droit d'en parler et de se positionner sur ce débat.
C'est une stratégie du gouvernement de vouloir peu communiquer dessus ou d'utiliser des termes compliqués ?
Oui, on l'a vu en fait déjà pendant 2 ans, il y a des travaux qui ont été menés par le gouvernement, donc à l'époque par Jean-Paul Delevoye qui depuis est parti à cause de ses petits soucis. Mais ces travaux ont été peu suivis en fait par les médias. On avait très peu d'informations sur cette concertation qui avait lieu sur les retraites. Au mois de juillet, Jean-Paul Delevoye publie son rapport qui propose une énorme réforme qui consistera à changer de fond en comble notre système de retraite. Et dès ce moment-là, bon déjà on voit que les médias reprennent très peu les informations. Il n'y a pas de débat qui s'enclenche réellement à l'été 2019 sur les retraites, donc on s'inquiète un peu. Et en plus, les termes utilisés sont très techniques, sont incompréhensibles pour le commun des mortels. Donc il était urgent de remettre ce débat au centre de l'attention des citoyens et des citoyennes, et puis donner les clés aux gens pour pouvoir s'y engager.
Justement, le débat, donc cette réforme, c'est quoi son esprit? Est-ce qu'on peut l'expliquer de façon simple?
Oui. Alors, il y a un objectif du gouvernement et qui est clair, c'est de baisser le niveau des pensions, de manière générale, dans notamment la richesse nationale. Ça, c'est un objectif qu'ils ont posé très très tôt dans le débat sur les retraites. Dès le mois d'octobre, à la radio, on entendait Jean-Paul Delevoye parler du plafond des 14% du produit intérieur brut. L'idée, c'est qu'on ne va pas dépenser plus de 14% de notre richesse produite chaque année dans nos retraites. C'est quelque chose d'assez inédit et que les experts des retraites comprennent très mal, parce qu'en fait, ça n'a jamais existé avant. On n'a jamais posé un plafond comme ça sur le produit intérieur brut sur nos retraites. Donc l'idée, c'est qu'on ne dépensera pas plus d'argent sur nos retraites, parce que bah, c'est dans l'état d'esprit général hein, de maîtrise des dépenses publiques. Les retraites sont des dépenses publiques, ce ne sont pas des dépenses de l'État, parce qu'on met tous de l'argent dans un pot commun qu'on reverse ensuite à tout le monde. Et ils veulent limiter ces dépenses-là, alors même qu'on sait qu'il va y avoir un nombre de retraités plus important à l'avenir. Aujourd'hui, ils et elles représentent 20% de la population, et en 2050, ils seront 27% de la population. Ce qu'on a observé avec le collectif Nos Retraites, c'est qu'une décision comme celle-ci, de plafonner le financement des retraites, alors que le nombre de personnes à prendre en charge va augmenter, va conduire à la baisse mécanique du niveau des pensions pour tout le monde.
Et justement, pour maintenir ces 14% de PIB, il y a des mesures qui sont mises en place, qu'on entend beaucoup et qu'on parfois nous paraissent assez floues, comme par exemple la retraite à points. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et en quoi ça change du régime actuel ?
La retraite à points, c'est un moyen, c'est une des méthodes qui est utilisée pour pouvoir baisser efficacement le niveau des pensions. Pourquoi ? Parce qu'un système à points, à la différence de notre système actuel, est automatique. En gros, les ajustements de niveau des pensions se font automatiquement. Il n'y aura plus besoin de réforme des retraites avec un système à points. Et c'est ça qui est très inquiétant et qui est inquiétant aussi pour le débat démocratique sur les retraites. On le voit bien, tous les 5 ans à peu près, il y a une grosse réforme sur les retraites où on se pose plein de questions. Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps ? Est-ce qu'il faut payer, financer plus les retraites, etc. Mais là, avec un système à points, ça n'arrivera plus jamais parce qu'un système à points ajuste automatiquement les retraites au niveau d'argent qu'on met dans le pot pour financer les retraites. Et comment se fait cet ajustement ? Il se fait notamment avec le fameux âge pivot qui se décale d'année en année. Cet âge pivot, on l'appelle aussi âge d'équilibre et son objectif, c'est justement d'équilibrer le système. Il ne s'agit pas là de l'équilibre de nos vies, de nos corps, de nos envies, etc. Non, non, c'est vraiment l'équilibre financier du système qui est en jeu. Et si à la base de cet équilibre, on a dit qu'on mettrait pas plus de 14% de nos richesses dans le système, eh ben on voit bien que l'ajustement se fera par le niveau des pensions versées à chaque retraité.
Donc notre carrière va être calculée donc avec des systèmes de points et plus avant les 25 meilleures années.
Tout à fait. Notre système aujourd'hui, il est assez puissant parce que son objectif de base, c'est de maintenir le niveau de vie des gens au moment du passage à la retraite. Le calcul de nos retraites se fait sur notre revenu. Un des éléments de la formule de calcul de nos retraites, c'est le revenu qu'on avait. Alors, sur les 6 derniers mois dans le public et les 25 meilleures années sont dans le privé. Mais il faut bien prendre en compte que la formule de calcul contient dans son cœur même le dernier revenu. L'idée, c'est que les retraités ne doivent pas perdre en niveau de vie au moment de la bascule à la retraite. Donc, quand je bascule à la retraite, eh ben, je peux garder mon logement, je peux garder ma voiture. Je n'ai pas à changer complètement de niveau de vie et à subir une baisse du pouvoir d'achat. Ça, c'est ce qu'on appelle un système à prestations définies. Les prestations sont définies en amont. Le système que nous propose Emmanuel Macron, c'est un système à cotisation définie. Je sais combien je cotise, je sais combien je vais mettre de points chaque année, combien je vais acheter de points chaque année pour financer ma retraite, mais je ne sais pas quel sera mon niveau de vie au moment du passage à la retraite.
Et donc, c'est forcément perdant pour tout le monde à partir de ce moment-là ?
Là, c'est clair et net qu'au vu du plafonnement imposé par le gouvernement sur nos pensions, tout le monde sera perdant. Tout le monde va subir une baisse du niveau des pensions à l'avenir, ne serait-ce que du fait que, parce qu'on plafonne et qu'on sait qu'il va falloir prendre plus de personnes en charge, le niveau des pensions va diminuer pour tout le monde et il va de fait falloir travailler plus longtemps. Ça, c'est quelque chose qu'on a montré avec le collectif Nos Retraites. Vous pourrez le voir sur notre site, notamment réformedesretraites.fr. On a montré des comparaisons qu'on n'a pas du tout calculées tout seul. On a pris les chiffres du gouvernement, vraiment, des comparaisons entre la situation des retraités à l'heure actuelle et les retraites et le niveau des pensions dans le système proposé par Emmanuel Macron. Et on voit que la baisse est très importante. Pour une personne qui a une carrière complète et qui est née en 61, le niveau de sa pension, c'est-à-dire le taux de remplacement, donc là, le taux de remplacement, c'est la comparaison entre le dernier salaire et la première retraite, son niveau de pension est à 73% de son dernier salaire. Pour la même personne née dans les années 90, le niveau de pension est à 56%. Donc la baisse est quand même très importante et avec une baisse du niveau de vie important pour les personnes dans le futur système.
Alors il y a un autre sujet aussi qui revient énormément dans ce débat sur la réforme des retraites, ce sont les régimes spéciaux. Donc l'élément de langage du gouvernement et comment il défend sa réforme, c'est on va mettre un régime universel pour que tout le monde soit logé à la même enseigne et qu'il n'y ait plus de privilégiés, pour reprendre les éléments de discours du gouvernement. Est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer sur ce point ? Est-ce qu'il est temps de mettre fin à des régimes spéciaux ? Et est-ce que surtout, le nouveau régime sera réellement universel ?
Le gouvernement nous dit qu'il va abolir les régimes spéciaux, qu'il y aura un régime universel, le même pour tous, 1 euro cotisé sera le même pour tous, c'est ce qu'on entend au quotidien. La vérité, c'est que dans un système où on aura tous un âge d'équilibre différent, c'est ça le principe du système par points, c'est que l'âge d'équilibre est positionné selon l'espérance de vie de notre génération. C'est un peu compliqué, mais l'objectif de l'âge d'équilibre, c'est assez cynique, c'est de regarder combien d'argent il y a à verser pour une génération qui va partir à la retraite, et puis de voir combien d'années ces gens-là qui vont être à la retraite vont vivre, et selon le nombre d'années qui me reste à vivre, eh ben on va ajuster le niveau de ma pension. Et s'il me reste de nombreuses années à vivre, on va me dire, bah, comme tu vas nous coûter un peu cher, on va baisser le niveau de ta pension tous les ans et on va t'inciter à partir plus tard. Pour ma génération, je suis née en 1991, l'âge d'équilibre sera à 66 ans et demi. Pour les générations d'avant, il est moins élevé, il est à 65, 64 ans. Donc on voit que cet âge d'équilibre, il est censé évoluer. Or, si toutes les générations ont un âge d'équilibre différent, ça fait que toutes les générations ont un régime différent en fait de retraite. Chaque individu aura son propre régime de retraite. Est-ce que c'est ça la lisibilité, l'universalité dont nous parle le gouvernement? Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. La mobilisation est tellement forte, tellement puissante, que le gouvernement a dû faire des concessions très très rapidement à des corps spécifiques, à des métiers spécifiques. On parle là de 8 régimes spéciaux pour lesquels le gouvernement a déjà lâché des concessions. C'est le cas de la police, des pilotes, etc. Et ça pose de vraies questions sur effectivement l'universalité du futur système de retraite. Bon, tout le monde aura compris que le rôle de la police est très important en ce moment, dans cette période de mobilisation où les actions ont lieu partout sur le territoire, très puissantes parce qu'il y a beaucoup de monde qui est impliqué. Donc je pense que évidemment on peut se permettre de leur faire des cadeaux et de leur offrir des garanties pour pas qu'ils rejoignent eux-mêmes la mobilisation avec tout le monde.
Il y a un autre point aussi sur lequel le gouvernement insiste beaucoup, c'est la retraite minimum à 1000 euros. Est-ce que ça, vous avez pu le décrypter et qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que c'est vrai que du coup, on peut trouver ça bien quand des fois, on entend des retraites à 600, 700 euros. Après, c'est vrai que la condition pour toucher cette retraite minimum à 1000 euros est d'avoir un taux plein. Donc, en fait, il n'y a pas de retraite minimum à 1000 euros, si je comprends bien.
Tout à fait. Ça, c'était vraiment... c'était une des nombreuses entourloupes du gouvernement, mais cette retraite minimum à 1000 euros qui était annoncée particulièrement pour expliquer que les femmes allaient être les grandes gagnantes de cette réforme. Alors, c'est bien parce que c'est quand même un argumentaire du gouvernement qui a été bien décrypté, bien analysé et sur lesquels les organisations se sont beaucoup mobilisées. Et maintenant, plus personne ne croit que les femmes peuvent être les grandes gagnantes de la réforme des retraites Macron. Ces 1000 euros ne sont accessibles qu'à la condition d'avoir une carrière complète. Et là, on a compris ces derniers jours que la carrière complète, ce serait d'avoir 43 annuités. Donc là, le gouvernement réinjecte des notions de notre système actuel, les annuités, pour conditionner l'accès à ces 1000 euros. La vérité, c'est que le gouvernement pourrait garantir ces 1000 euros dès maintenant, dans le système actuel, s'il le voulait. Et d'ailleurs, il semble que ce soit une obligation de sa part, et ce depuis les années 2000, puisqu'une loi a été prise à l'époque et devait garantir aux gens un minimum l'équivalent de 85% du SMIC.
Souvent, ce qu'on comprend en entendant les oppositions à la réforme des retraites, c'est que tout le monde va avoir moins de pension et que tout le monde va partir plus tard. Et justement, c'est ce tout le monde qui m'intéresse, parce que c'est vraiment, voilà, toute la population est concernée. Est-ce que c'est vrai, les plus pauvres, les plus riches, est-ce que tout le monde est concerné? Et le secteur privé, le secteur public, tout le monde est touché en fait?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le gouvernement le dit lui-même, en le justifiant par un allongement de l'espérance de vie. Parce qu'on vivrait plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. Est-il réellement possible de travailler plus longtemps quand on sait que l'espérance de vie en bonne santé stagne à 63 ans? Quand on sait par ailleurs qu'un senior sur deux n'est plus en emploi au moment de partir à la retraite, est-ce que c'est bien sérieux de vouloir faire travailler des gens plus longtemps, alors même que ce n'est juste pas possible pour les citoyens et les citoyennes aujourd'hui? Donc c'est ce débat qu'on a voulu aussi nourrir avec le collectif, et puis permettre aux gens de s'exprimer sur ce qu'ils vivent au travail. Moi, je vois autour de moi les personnes qui ont plus de 50 ans, je pense notamment à mes parents, ils ne peuvent pas travailler plus longtemps. Ils sont déjà tous les deux, par exemple, mes deux parents, ma mère, mon père, passés à temps partiel pour pouvoir supporter le travail qu'ils vivent aujourd'hui. Donc là, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on arrive à poser aux citoyens, aux citoyennes. Et malheureusement, je trouve que dans le débat public, on n'entend pas assez ces paroles-là de gens qui viennent nous dire « bah non, ce n'est pas possible pour moi, pour telle et telle raison ». Enfin, moi, juste, c'est mon cas personnel, c'est un peu ma petite histoire, mais mon grand-père était cheminot, et je sais que le fait qu'il ait pu partir plus tôt a permis qu'il vive plus longtemps, en fait, et que je puisse moi-même le connaître. Ça a des impacts sur nos vies concrètes, quoi, ces possibilités de partir plus tôt. Sur la pénibilité, nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, là, le gouvernement veut en rediscuter. Aujourd'hui, malheureusement, je trouve que dans le débat public, on n'entend pas assez des gens qui parlent de leurs conditions de travail. Vous avez dû voir les gens qui jettent leurs outils de travail. Enfin, c'est vraiment très fort comme symbole, comme image. Donc, j'ai hâte que ce débat explose dans la société publique.
Là, on parle de débats, de négociations, etc. C'est vrai que donc, on les voit, toutes les manifestations, les revendications syndicales. Mais Est-ce que c'est encore le temps des négociations, en fait? Parce que, par exemple, même vous, vous dites que le 18 juillet, tout était déjà décidé.
Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont posées. Le plafond des 14%, le gouvernement ne veut pas revenir dessus. Et ça, il l'a réaffirmé ces derniers jours, donc c'est quelque chose de clair et net. Le niveau des pensions va baisser. Et puis, ils ont réaffirmé quelque chose d'assez inquiétant aussi. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Ça, ils l'ont mis dans l'article 1 de leur projet de loi organique. La règle d'or, c'est quoi? C'est le fait que le gouvernement souhaite que le système de retraite soit à l'équilibre entre les prestations et les cotisations. Et ça, pour nous, enfin pour le collectif Nos Retraites, c'est une hérésie totale, parce que cet équilibre va conduire nécessairement à un ajustement par le bas du niveau des pensions. C'est par le niveau des pensions qu'on va ajuster ce fameux équilibre. Une loi organique, c'est pratiquement ce qu'il y a en dessous de la Constitution. Donc c'est très très fort comme poids symbolique, juridique. Cette règle d'or, elle va primer sur tout le reste. Et ça veut dire qu'en cas de crise, le niveau des pensions va baisser, il ne sera pas garanti, à la différence de ce que nous dit le gouvernement quand il nous dit on va garantir la valeur du point, etc. En cas de crise, c'est la règle d'or qui primera et le niveau des pensions va baisser.
Et est-ce que là, justement, vous parlez des points que le gouvernement a affirmés et confirmés. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé depuis le début des mobilisations?
Oui, il y a effectivement toutes les concessions qu'ils ont fait sur un certain nombre de régimes. Il y a le fait qu'ils ont décidé de repousser l'entrée en vigueur de la retraite par points. Au départ, la retraite par points était censée s'appliquer à partir de la génération née en 1963. Maintenant, c'est à partir de la génération née en 1975. Et puis là, récemment, il y a cette espèce de tour de passe-passe qu'a fait le gouvernement sur l'âge pivot.
Est-ce que ce fameux âge pivot est retiré?
Alors, je vais réexpliquer un petit peu comment ça se passe dans le contexte. Comme je l'ai dit, il y a donc une réforme systémique. C'est la retraite à points que le gouvernement veut mettre en place à partir des générations qui sont nées en 1975, c'est-à-dire à partir de 2037. Mais avant ça, le gouvernement veut faire une autre forme de réforme. C'est une réforme qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire jouer sur un paramètre du système actuel de retraite. Pourquoi il veut faire ça? Parce qu'il considère, et je l'ai dit avant sur la règle d'or, que notre système de retraite ne peut pas être dans une situation de déséquilibre financier. Or, aujourd'hui, le gouvernement considère qu'il y a un petit déséquilibre, qui est de l'ordre de 12 milliards d'euros. C'est très peu, 12 milliards d'euros sur l'ensemble des dépenses de retraite. Les dépenses de retraite, tous les ans, c'est 300 milliards d'euros. Donc 12 milliards, c'est pratiquement rien. Le gouvernement veut absolument faire ses économies de 12 milliards d'euros. Et pour ça, il va demander aux futurs retraités, aux gens qui sont aux portes de la retraite aujourd'hui, de faire un petit effort. Au départ, le gouvernement avait proposé de le faire sous la forme d'un âge pivot. Il a dit donc aux gens qui allaient partir à la retraite, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir travailler un petit peu plus longtemps. L'âge pivot, il sera à 64, puis 65 ans. Et comment ça va marcher concrètement? Ça veut dire que vous avez beau avoir dépassé l'âge légal de 62 ans, vous avez beau avoir cotisé vos 42 annuités, vous devez quand même partir après 64 ans pour ne pas subir de décote, c'est-à-dire une baisse du niveau de vos pensions. La CFDT s'est notamment opposée à ça, et le gouvernement a dit, très bien, on va retirer l'âge pivot, mais je vous informe que cet âge pivot sera remis en place si les partenaires sociaux, donc les organisations syndicales et patronales, n'arrivent pas à trouver une autre manière de faire 12 milliards d'euros d'économies d'ici au mois d'avril 2020. Le gouvernement a exclu toute possibilité d'augmenter les financements. Donc ce seront nécessairement des mesures d'allongement de la durée du travail pour les gens.
Et par rapport aux termes, parce qu'il y a beaucoup de termes en fait, c'est comme on le disait, des éléments de langage du gouvernement, l'âge d'équilibre. Est-ce différent de l'âge pivot? Parce que lui, l'âge d'équilibre, par contre, il n'est pas retiré de la réforme des retraites. Donc est-ce qu'il y a aussi une nuance là-dessus?
Il n'y a pas de nuance, car ce sont les mêmes choses. L'âge pivot pour les générations nées avant 1975 et l'âge d'équilibre pour les générations nées après, c'est la même chose. Ils ont cette particularité de progresser dans le temps, et en l'occurrence, ils augmentent, pour permettre d'équilibrer financièrement le système des retraites. Donc évidemment, l'âge d'équilibre est maintenu dans le système par points. Là, on parle de gens qui vont partir dans les deux prochaines années, qui ont pour certains et certaines déjà prévu leur départ à la retraite. Et on va leur dire, probablement, vous allez devoir partir 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Enfin là, c'est quand même très très grave ce qui se passe. Et tout ça uniquement pour des considérations financières, alors qu'on pourrait aussi poser le débat autrement. Et moi, je pense que c'est important de l'avoir entre nous, ce débat, en tant que citoyen et citoyenne. Moi, par exemple, je me pose la question, est-ce que je préfère que mes parents partent à la retraite 1 ou 2 ans plus tard, ou est-ce que je préfère, moi, payer un petit peu plus de cotisations par mois pour qu'ils n'aient pas à partir plus tard? J'ai personnellement ma réponse à cette question, mais je pense que ce serait bien qu'elle soit posée à tout le monde à l'heure actuelle.
Vous avez mis un simulateur à la base. Sur votre site, on dit, tiens, on peut calculer notre retraite. Je l'ai mis. Donc, j'ai fait ma retraite, mon niveau de carrière, etc. Et à la fin, on me dit, ah, on peut pas faire de simulation parce qu'en fait, le gouvernement n'a donné aucun chiffre. J'ai même vu sur Twitter, dans les threads très explicatifs que vous faites, que vous disiez que même les chiffres du gouvernement mentaient.
Alors oui, on a déjà... bon. Le gouvernement est entré en matière de façon complètement opaque et antidémocratique pour nous sur cette question des retraites. Il ne publie aucun chiffre. Il a nécessairement fait des simulations. Comment on sait qu'il a fait des simulations? D'abord, c'est le contexte. Le gouvernement, il est à la tête de grosses administrations qui sont en capacité de faire des calculs. On parle là de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. On parle aussi de la direction de la sécurité sociale. Toutes ces administrations ont en leur sein des statisticiens, des gens qui peuvent faire des simulations, des calculs. Or, le gouvernement n'en a publié aucune. La deuxième des raisons qui fait qu'on sait qu'il a fait ses calculs, c'est qu'il en a publié quelques-uns quand même. Dans le rapport de Levoix, il y avait 9 cas types. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui ne fait pas la transparence sur sa réforme des retraites, sur une réforme qui va toucher tout le monde, qui est majeure dans la démocratie et dans la société française. Ça, c'est vraiment très grave. Donc on continue à appeler à ce que le gouvernement publie ses simulations. Or aujourd'hui, ce qui nous est répondu dans les médias, c'est on les publiera peut-être après le passage de la loi au Parlement. Donc quand elle sera adoptée. Enfin, c'est pas sérieux, ça. C'est pas une manière de gouverner.
Et un autre argument du gouvernement aussi, c'est on a besoin de faire des économies. C'est ce qu'on entend partout pour toutes les réformes. Vous avez laissé sous-entendre que vous préfériez donner un peu plus de cotisations pour justement renforcer ce système de solidarité et trouver cet équilibre des 12 milliards qu'il manque. Est-ce que justement, c'est ce déséquilibre que prône l'État, est-ce qu'on est obligé de piocher dans le système de retraite ou dans le système des salaires? Est-ce qu'on peut pas piocher ailleurs, finalement?
Je pense que de manière générale, il faudrait poser la question des financements. Ce qui est compliqué, c'est que dans le débat de public, elle a mis beaucoup de temps à émerger, cette question. Quand on nous parle à longueur de journée de valeur du point, de système universel, super lisible, de fin des régimes spéciaux, ça donne peu d'espace médiatique, en fait, à la question du financement. Et là, ce qui est bien, c'est qu'elle est enfin posée et que le gouvernement est très en difficulté sur cette question. Parce qu'il faut, là, il est obligé d'assumer qu'il veut baisser le niveau des pensions. Et les gens ne sont pas d'accord avec ça parce que les gens sont attachés à un système par prestation définie, comme j'en parlais tout à l'heure, qui garantit un niveau de vie au moment du passage à la retraite. Si on baisse le niveau des pensions de manière générale, ça va conduire à un appel d'air, et c'est un débat qui a eu lieu ces derniers temps, à la retraite par capitalisation. Les gens, ils n'auront pas leur niveau de pension garanti, et bien ils vont le chercher ailleurs. Et ils vont le chercher notamment dans un système qui sera cette fois-ci privé.
Je voulais aussi aborder la question dont on parle peu finalement, des chômeurs et des chômeuses. Est-ce que finalement ce sont les grands perdants de cette réforme des retraites, notamment avec le fait qu'on disait que avant on gardait les 25 meilleures années, maintenant c'est sur toute la carrière, ce système de points?
Oui, tout à fait. En fait, les chômeurs, les chômeuses vont être les perdants et les perdantes de cette réforme des retraites, comme tout le monde en fait, du fait de la baisse du niveau des pensions, mais aussi effectivement des nouvelles règles de calcul qui sont très individualisées et qui du coup vont moins pardonner ces périodes de trous dans la carrière, comme pour les femmes par ailleurs, qui s'arrêtent souvent pour s'occuper des enfants ou qui subissent des temps partiels.
Oui, ces personnes vont cotiser beaucoup moins en fait.
Tout à fait, et puis ces années-là ne seront pas pardonnées. De la même manière pour les jeunes, les petits jobs d'étudiants que vous aurez eu au niveau de votre carrière, ils seront pris en compte en fait dans le calcul de la retraite, alors qu'aujourd'hui ce n'était pas le cas. Et ça permettait qu'on prenne en compte les meilleures années. Donc ce sera effectivement très injuste pour tous les précaires, pour les femmes y compris. Donc c'est un système, cette retraite par points, qui est très individualisant, très injuste et qu'il faut absolument combattre.
Je vais revenir et terminer avec justement votre volonté du collectif Nos Retraites, de cette pédagogie. Vous avez mis en place donc une plateforme, un site qui est vraiment très bien fait, très pédagogique. On voit voilà la réforme expliquée en quelques points, où on dit comprenez la réforme des retraites en 3 minutes, ce qui paraît parfois incroyable. Aussi un grand travail de documentation, des graphiques, des soit des simulations, soit voilà des comparaisons entre générations. Comment vous avez mis tout ça en place? Parce que ça a l'air d'être un énorme travail quand même.
Oui, j'avoue que je suis assez contente de ce qu'on a fait. C'est un très gros travail. On est tous très motivés. On le fait tous sur notre temps personnel. On s'est tous engagés parce que cette question était importante pour nous et on se disait que le débat ne partait pas du tout dans la bonne direction. Soit on parlait très peu des retraites, soit on n'en parlait pas du tout de la bonne manière. On parlait pas du financement, de ces sujets dont je vous ai parlé. Donc on est vraiment content d'avoir pu mettre ça en place. On a fait effectivement ce site internet réformedesretraites.fr. On est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook. On a fait des petites vidéos explicatives avec Cerise la souris, je sais pas si vous les avez vues, mais qui explique en une minute les notions clés de la réforme. On a fait des formations débat un peu partout en France qui finissent par un débat avec la salle et dans lesquelles on essaye de faire comprendre aux gens, d'expliquer aux gens comment marche le système actuel et comment la réforme va tout changer, tout chambouler dans nos retraites, mais aussi dans nos relations sociales. Donc oui, je pense que le collectif a fait un super travail et je remercie évidemment tous ceux et celles qui en sont membres. Et il y a plein de petites mains qui travaillent, qui nous donnent des coups de main tous les jours. Et c'est vraiment super encourageant. Et puis, ce qui est très agréable aussi, c'est de voir les retours des gens. Les gens apprécient ce qu'on fait. Donc, ouais, c'est du beau travail.
Merci beaucoup, Agathe, du collectif Nos Retraites.
Alors ouais, non, c'était pas le charabia du gouvernement, hein, c'est pas Muriel Pénicaud, c'était Élise Caron et Édouard Pernaud qui traînent un album qui s'appelle Bittersweet, hein, puisqu'on dit souvent qu'on parle pas des musiques qu'on passe, hein, donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur le net ou chez votre disquaire préféré s'il en reste. Des questions et des remarques sur l'exposé, on va dire très clair qu'on a écouté. Il me semble qu'on pourrait essayer aussi d'ouvrir, on va dire politiquement et socialement ce que dit Agathe, c'est-à-dire qu'il y a une notion qui est fondamentale, c'est que dans la redistribution des cartes à la sortie de 1945, vu le rapport de force qui était, et vu, comme on l'a vu la semaine dernière avec l'entretien avec Stéphane Siro, le rôle que pouvait jouer la régulation de la grève, des conflits, du syndicalisme, de la co-gestion de ces syndicats, on avait un modèle de salariat, un modèle de paiement de la main-d'œuvre qui a duré assez peu de temps, hein, 30 ans, entre 46,
oui,
48,
c'est ce qu'on appelle
48.
Les 30 glorieuses.
Ouais, les 30 piteuses, ouais, parce que bon, ça dépend de quel point de vue on se place, parce que pour pouvoir nourrir ces 30 glorieuses, il a fallu, un, cartonner l'environnement et la nature, quand même,
hein, à cette époque. Cartonner le tiers-monde.
Et cartonner les immigrés, quoi. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir ces revenus qui ont augmenté en flèche et cette consommation, il y avait quand même toute une masse de main-d'œuvre sous-qualifiée, hein, ces ouvriers spécialisés qui permettaient justement la répétition des tâches et la construction de ce fordisme. Et en plus, on a aussi cartonné l'agriculture, puisque à cette époque, il y avait encore près de la moitié de la population française qui vivait de l'agriculture paysanne. Et pour pouvoir continuer à alimenter ce taux de profit continu, il a fallu pouvoir dégager,
industrialiser,
voilà, industrialiser et créer des besoins artificiels tels de ceux de la consommation qui ont permis de créer des nouveaux débouchés pour pouvoir acheter 1, 2, 3, 4, 5 voitures ou 18 télé, des frigos, des machines à laver, etc. Enfin bon, voilà. Mais ce qui était important, c'était, et je crois que c'était une révolution un peu quelque part dans la modalité du salariat, c'était de détacher le revenu de l'activité, c'est-à-dire que toutes ces parties qu'on qualifie lorsqu'on fait une analyse un petit peu globale du salariat, de salaires différés, des salaires qu'on ne touche pas maintenant, mais qui font partie de la richesse qu'on produit. Vous voyez, c'est dans les fiches de salaire, les gens regardent toujours en bas, à droite, salaire net. Ben, c'est normal, hein, c'est ce qu'ils ont besoin, c'est ce qui arrive et ce qui va arriver sur leur compte. Mais c'est pas ça leur salaire. Le salaire, c'est ce qu'il y a en haut. Hein, c'est le brut, c'est l'ensemble de la richesse qui a été créée et sur laquelle on a en partie, une partie tout de suite, le net, et une partie différée. Hein, avec notamment l'assurance maladie, l'assurance chômage, etc., etc. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'être, on va dire, productif pour pouvoir percevoir normalement un revenu. C'est-à-dire, on peut être malade, on peut être vieux, on peut être au chômage, sans activité, hein, sans emploi, et quand même continuer à percevoir un salaire. Et là, vraiment, on va dire, dans cette radicalisation du capitalisme tel que l'incarne Macron, on voit bien que les gens ne pourront bénéficier d'un revenu que s'ils sont productifs et qu'ils rapportent immédiatement et tout de suite. Ou alors, il va falloir s'auto-organiser. Nous devenons chacun des entrepreneurs de soi-même. Il faudrait pas non plus qu'on, on va dire, concentre hein, ce mouvement. Il est progressif, il se radicalise là, mais il est progressif depuis une dizaine d'années. Hein. Je regarde là quelques notes. Depuis 93 que le droit à la retraite a reculé au fur et à mesure.
93,
ouais. L'auto entre 2017, hein, 61,66 ans, 61,6 pardon en 2009. Aujourd'hui 62 ans pour les départs. On imagine si pour ceux qui ont un peu de parents qui ont bossé dans l'industrie ou dans le secondaire, voir ses parents bosser jusqu'à 62 dans les conditions auxquelles ils ont bossé, plus personne ne serait sorti vivant de ces usines, de ces horreurs là quoi. Et puis sur l'auto-entrepreneuriat, on le voit hein, cette tendance là elle est lourde et évidemment elle s'accentue avec la crise puisque nous devons payer évidemment et que pour ça il allait falloir un sacré rapport de force pour pouvoir inverser la tendance parce que quelque part aujourd'hui la situation est claire, la bourgeoisie et les rapports de classe sont mis à nu, il n'y a plus d'intermédiaires la question de déboucher ce mouvement sur une crise sociale et politique ne peut pas se faire avec des acteurs et des partenaires qui sont eux-mêmes partie prenante aussi de l'ancien monde. Je pense notamment aux intersyndicales et aux syndicats où là je vois tu nous proposes un texte. Bah,
c'est le dernier communiqué de l'intersyndicale au niveau national qui a été pondu donc après la manif dernière, c'est-à-dire jeudi 6, ouais, c'est ça, c'était pondu le 7.
Donc, c'est quoi le MNL? Je vois parce que là, il y a la signature. Bon, CGT, on voit à peu près ce que c'est. FO, il paraît. Pardon, Sylvie, hein, mais la FSU, pas beaucoup vu. Moi, je sens d'ailleurs solidaire, ouais. La FIDEL, le MNL, l'UNEF. Ces gens-là, ils représentent quoi?
Mais c'est que dalle, surtout maintenant.
Bon, c'est quoi le MNL? Mouvement nationaliste? Encore un machin. Oui. Ouais, encore un machin. Ouais, ok, pardon, excuse-moi.
C'est une structure vide, ouais. C'est clair.
Tu parlais donc de ce communiqué qui
Oui, par rapport à ce communiqué, où effectivement, certains à l'extrême gauche se sont offusqués le fait que cette réunion de bureaucrates, faut les appeler comme ils sont, appelle d'ores et déjà des temps forts autour du 8 mars, c'est-à-dire dans quasiment un mois. Bon, alors depuis, il y a eu modification, puisqu'il y aurait une interprofessionnelle le 20 février. Le 20 février, et encore, on ne sait pas si c'est national ou pas. N'empêche que, bon, en vouloir aux bureaucrates, ils ne font pas leur travail, faut quand même pas déconner. C'est-à-dire que on est toujours en train de critiquer les bureaucrates en question, mais nous-mêmes, dans le mouvement, qu'est-ce que le mouvement fait? C'est-à-dire que si ce n'est que de suivre ce que disent ces bureaucrates et ces fédérations, ces confédérations. Donc voilà, donc je pense que il y a ce qui se dit au sommet, j'aime pas trop, sommet de la contestation, Mais il y a aussi la réalité de terrain. Et on peut dire que la réalité de terrain, ça change beaucoup. Il y a eu des baisses, hein, puisque par exemple, sur Reims, maintenant, on est entre 5 et 700. On a quand même été 2 à 3000 à une époque. Bon, c'est quand même... bon, il y a pire. Boulogne-sur-Mer, ils sont plus que... La dernière manif, ils étaient 200. Et puis, il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux. Il y a encore des endroits où il y a beaucoup de monde. Bon, c'est lié certainement au fait que dans ces endroits, il y a des réalités historiques qui ont fait que ça bouge beaucoup. Alors, je vais en vous en donner, parce qu'on avait fait, rappelez-vous, 7 émissions, je crois, en faisant des tours de France, et j'ai repris un petit peu où ils en sont, ces gens-là. On n'avait pas parlé, on n'avait pas pu avoir le Pays Basque au téléphone. Par contre, au Pays Basque, on vient d'avoir le 6 février, il y a eu encore 2000 manifestants à Bayonne. Bayonne, ouais. C'est beaucoup plus petit que Reims, c'est 3 fois plus petit. Ensuite, il y a eu 2000 manifestants et manifestantes à Pau, c'est pareil aussi, c'est petit Pau. Et puis, la mobilisation, ça tient en Pays Basque rural, ça continue à s'organiser et à faire et à prévoir des actions symboliques. Il y a des tas de choses qui se passent tous les jours. Occupation de perception, de banque, d'assurance, réunion publique sur les mesures Macron, projection de films, plus débat, dans des petites villes où il y a 2000 habitants. Mauléon, par exemple, etc. Il y a quand même des gens qui bougent aujourd'hui dans ces régions. Alors, il y a aussi...
Ouais, alors, je me permets de tempérer, vas-y. Non pas ton enthousiasme, mais de donner des explications. On a des secteurs de la société qui sont fortement politisés, et le débat politique, la politisation n'a jamais été évacuée ou n'a jamais été confiée à des spécialistes ou à des choses. Il y a toujours eu des débats et des discussions. Ce dont on a l'impression, en tous les cas sur Reims par exemple, c'est même pas que les gens ne savent pas ou ne veulent pas, c'est qu'ils sont désarmés. C'est-à-dire que poser la question de l'auto-organisation, poser la question de se constituer et de s'organiser en parlant, en discutant de visu sans utiliser les réseaux sociaux, s'écouter, ne pas partir dans des proclamations qui soient des proclamations Yaka, Faucon, travailler ensemble avec ces différences, mais travailler et se mettre au service du mouvement. Et d'un autre côté, on a l'impression, enfin c'est pas qu'on a l'impression, hein, c'est tout à fait le cas, on a attendu que l'extrême gauche, qui était normalement, on va dire, dévolue à ce rôle-là, le fasse, ça n'a pas été le cas. De l'autre, du coup, on se retrouve pris entre ces deux mâchoires-là. Cette extrême gauche, il y a personne qui est mouvementiste, tu vois. Il y a personne qui se met au service du mouvement. Et il y a quand même un socle de gens qui viennent tout le temps, et qui nourrissent la calendrier syndicale. C'est-à-dire que quelque part, on a l'impression que, à mon avis, l'intersyndicale, que ça soit nationale ou même locale, elle serait ravie que les gens rentrent chez eux parce qu'elle sait plus quoi faire, quoi. Ils sont complètement décribilisés, quoi. Donc il faut, j'allais dire, tout reprendre à zéro. Tout en se débarrassant de ses propres préjugés, de ses propres d'a priori, et alimenter cette histoire de mouvement. C'est du boulot, hein, mais c'est pas du boulot qui peut se faire tout seul. Ouais. C'est du boulot qui se fait.
On y reviendra, mais ouais, peut-être mais qu'on a raté quelque chose. Il y a eu à une époque, il y a 2 ans, 3 ans, un comité de lutte sur Reims,
par exemple,
hein, et il aurait peut-être fallu prendre l'initiative de, même si ça n'aurait pas été les mêmes gens, même si ce n'était pas le même sujet. C'est pas le sujet du travail, c'est le sujet de la retraite. Il y a des choses qui ont bougé sur un, c'est pas en positif au niveau d'un certain nombre de gens qu'on ne voit plus maintenant et de lieux qui n'existent plus. Voilà, il n'y a pas eu d'initiatives qui ont pu regrouper des gens dans une dynamique telle que le comité de lutte en 2017.
1917, ouais.
2017,
très, très grand comité de lutte.
Oui, 2017.
Reims-Moscou.
Voilà. Bon, alors je vais continuer par rapport à ce qui se passe ailleurs. Dans la région toulousaine et dans le Grand Ouest, il y a les manifs qui continuent à plusieurs milliers de personnes sur Toulouse, 2 à 3 fois par semaine, et à plusieurs centaines, 5 à 800, dans les petites villes. Alors là, on en est à des villes qui ont moins de... C'est moins de 10% de Reims, hein, Saint-Gaudens, Foix, Pamiers, Cahors, Montauban, Figeac, etc. Il y a des tas de manifs qui se passent, surtout le samedi et les jours d'appel intersyndicaux. Il y a des actions locales, comme une marche au flambeau à Carbone. Carbone, vraiment, c'est, je sais pas combien d'habitants, hein, c'est pas, 3000.
Ouais, même pas, ouais.
Je ne sais même pas.
Ouais, c'est à 3000, 2200, ouais. Il y avait 160 personnes qui ont fait cette marche au flambeau. À l'appel d'un collectif, d'ailleurs, qui s'appelle Collectif de citoyens grand Volvestre, qui regroupait des grévistes de l'éducation nationale, des gilets jaunes et des autres. Il faut dire que le mouvement des gilets jaunes dans cette partie, hein, a été important.
Hyper puissant.
Hyper
ouais.
puissant. Il y a pas que Toulouse, hein. Il y a eu tout le sud de Toulouse.
Toute la Haute-Garonne.
Toute la Haute-Garonne et puis l'Ariège. Mmh. Bon, et là, il y a eu, et ça existe encore. Il y a des choses qui se passent tous les jours. Alors, les ronds-points ont été actifs. Une ou deux fois par semaine, ils étaient bloqués. Il y a eu des réunions hebdomadaires. Bref, vraiment, il y a eu des tas de choses qui se sont passées là-bas. Alors, sur Saint-Nazaire, là, on va parler un petit peu de Saint-Nazaire, puisqu'on a eu le copain sur uh-huh. Saint-Nazaire, où effectivement, il y a eu des choses intéressantes au niveau des profs, au niveau des cheminots. À ce niveau des cheminots, d'ailleurs, la caisse de grève cheminot locale Saint-Nazaire-Savenay a ramassé combien ? 124 000 euros.
Ah ben, s'ils peuvent me dépanner de...
124 000 euros, c'est énorme, hein, je veux dire, vraiment, ouais. C'est vraiment énorme. Le copain a dit maintenant, la caisse de grève, les caisses de grève qui existent, il y en a plusieurs, uh-huh. au niveau de l'éducation, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne en grève.
Ben oui, hein, en plus, il avait décrit... L'importance stratégique des cheminots à Saint-Nazaire était un petit peu, c'est super important de se mettre à grève, on n'est pas en train de dire ça, mais un petit peu légère, quoi, parce que c'était la fin de la ligne, donc
c'était un autre champ. Ce qu'il faut savoir, Saint-Nazaire, c'est les grands chantiers, ouais. L'Atlantique, et ça, ceux-là n'ont pas bougé,
à fond.
Évidemment, puisque il y a les commandes qui sont arrivées et les organisations syndicales de ces lieux n'ont pas fait grand chose pour mobiliser les gens contre la réforme des retraites.
Bah, il faut pas perdre les marchés, hein. Il faut défendre la boîte et l'industrie française.
Faut lire ce genre de choses. Alors maintenant, si on prend Poitiers, il y a eu encore 2000 personnes. Il y a eu encore 2-3000 personnes à Limoges. Il y a eu encore des choses qui se sont passées ailleurs avec des trucs significatifs. Et puis, il y a eu le cas de Lille. Alors, le cas de Lille, c'est terrible. Ça aurait pu nous arriver d'ailleurs sur Reims. Il y a eu 2 à 3 000 personnes. C'est d'ailleurs été un petit regain par rapport à la semaine dernière. Mais la manifestation, dans la lettre, il y a une lettre qui a été faite par une partie de l'intersyndicale, c'est-à-dire sans Sud, sans Solidaire. Une lettre qui est adressée à Castaner et qui dénonce le cortège de tête. Et oui, à Lille, il y a un cortège de tête. Il nous l'avait dit, le copain, là-bas. Il y a une grosse tension avec la CGT qui existe maintenant, qui a forci son service d'ordre, mais le cortège de tête reste important et s'impose toujours. La CGT a même arrêté le cortège au moins 15 minutes pour dénoncer la présence de ce mini black bloc, paraît-il. Et ils ont eu droit à manifester. Ils n'ont pas eu droit à manifester dans le centre. Et comme d'habitude, bien sûr, le cortège a été gazé. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que, je vais vous lire un petit peu la lettre qui est envoyée à Castaner par l'intersyndical, un extrait. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Régulièrement, lors de nos manifestations, un groupe de personnes non identifiées s'immisce dans nos cortèges et se livre à un certain nombre de dégradations. Vitrines, panneaux publicitaires ou abris de bus brisés.
Je croyais qu'il parlait des flics, moi.
Notre service d'ordre de la manifestation isole le cortège syndical de ce groupe d'individus, facilement repérable au départ des manifestants, de la manifestation. Ces individus ne font objet d'aucune intervention de la police, pourtant manifestement présente. C'est une dénonciation, donc, à la police, et d'ailleurs, c'est clair, ils disent carrément que c'est ça le citoyennisme aussi, hein, que faut. Ils demandent le respect du droit de manifester dans le cadre de la loi. Dans le cadre de la loi. Alors, faudrait redire ce qu'a dit Ciro la semaine dernière, c'est-à-dire en faisant ça, mes cocos, vous n'auriez jamais rien obtenu.
Mais c'est innommable parce que t'as à la fois de la stupidité. t'as à la fois de la lâcheté, t'as à la fois de la myopie politique, t'as à la fois dégueulasserie de dire « Ouais, nous, on peut pas manifester, ils font rien qu'à foutre le bordel. » En plus, c'est des mensonges, parce que vu la gueule du service d'ordre de la CGT et la masse des camarades, parce que c'est pas trois personnes hein, qui font ça, hein, c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines, quoi. Le service d'ordre de la CGT la ramène pas, hein. C'est, ils font plus trop les malins, quoi. Du coup, ils peuvent plus l'empêcher ça.
Et qu'est-ce qu'ils font? Waf, 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 ils s'adressent à Castaner.
Et en plus, mais c'est vraiment les... Il y a même pas d'amour propre, parce que ça fait trois mois que ces gens-là se font casser la gueule. Tous les gens qui en ont pris plein la gueule par les flics, les gens qui ont perdu leurs mains, leurs yeux, les gens qui se sont fait nasser, un an de violence policière, et de dire « Nous, on veut manifester dans le cadre de la loi. » Mais pauvre pomme, dans le cadre de la loi, tu te fais massacrer la gueule. Et en plus, on te dit d'aller bosser jusqu'à temps que tu crèves, quoi. C'est incroyable de... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un stagiaire qui a...
Non, c'est une vieille CGT. Vieille entre guillemets, c'est-à-dire que ce type de comportement cégétiste était majoritaire dans la CGT dans les années 60, 50, 60, 70, 80.
Certes,
ça a commencé à baisser après, mais c'était écoutez, regardez ce qui s'est passé en 68, hein. Mmh. Regardez ce qui s'est passé sur Reims, au niveau, par exemple, de l'enterrement de Pierre Maître.
C'est ça, ouais.
Hein,
ouais.
Où il y avait la CGT qui voulait casser la gueule à tous les maoïstes et tous les anarchistes qui risquaient de ramener leur gueule. Tu vois, bon, moi, on a failli se faire casser la gueule par
des pontes, on oublie,
c'est tous ces trucs-là, par des pontes CGT qui... Mmh. Certains sont décédés, mais d'autres sont encore là.
On imagine peut-être, mais peut-être que la différence qualitative, s'il y en a une, entre ces néo-staliniens, post-staliniens, ces staliniens d'aujourd'hui et les staliniens de maintenant, quelque part, c'est que des fois, de temps en temps, ils pétaient la gueule aux flics, quoi.
De temps en temps,
très très rarement. Là, franchement, on a vraiment le premier de la classe qui va rapporter à la maîtresse qu'il peut pas faire ses devoirs, quoi. Il peut pas travailler.
Ouais. Alors, mais à Lille, ils ont un cortège de tête. Moi, je disais aussi, à Reims, il y a aussi un cortège de tête. Ouais, bah c'est les retraités, la CGT.
C'est ça. Non, mais à Lille, enfin, je veux dire, les cracher à la gueule des mineurs et de toute l'histoire du mouvement ouvrier lillois et du bassin minier, quand même, d'écrire des saloperies comme ça, ça me fait penser, tu sais, à il y a quelques années, pas longtemps, hein, où il y avait eu la revendication par des combattants internationalistes du Rojava, d'une brigade Henri Krasuki, et où un stagiaire avait certainement... je sais pas ce qui s'est passé, mais il avait fait un communiqué disant que Henri Krasuki toute sa vie avait prôné des valeurs pacifistes, etc. Alors on peut penser ce qu'on veut d'Henri Krasuki, on n'est pas en train de le défendre, mais au moins Henri Krasuki a été déporté pendant l'entre-deux-guerres. Il a fait partie d'un groupe de FTPF et c'était le copain de Marcel Reimann, des gens de la fiche rouge, quoi. Donc c'est des gens qui ne connaissent même pas leur propre histoire, quoi. Et c'est évident que si on laisse le mouvement social et la lutte entre les mains de ce type de personnes, on peut rentrer chez nous, c'est même pas la peine, quoi. Donc tu le répètes, hein, tu l'as dit, il va falloir sérieusement se prendre en charge. C'est pas seulement à l'initiative des militants politiques ou des militants d'organisation, parce que nous aussi on a nos propres tares, on est victime de nos propres représentations. C'est avec tout le monde, c'est dans un échange, c'est dans une dialectique entre effectivement les gens qui proposent des choses avec les gens qui sont dans le mouvement. Mais est-ce qu'il est trop tard? Non, il est jamais trop tard, parce que les attaques, elles vont continuer et elles vont le poursuivre. Et puis, on a l'impression que depuis quelques mois, on a quand même cette espèce de mouvement de basse intensité où il y a plein de gens qui ont mis plein de choses à l'intérieur des mouvements qu'ils ont traversés.
On peut dire depuis 2017.
Ouais, c'est ça. Et il y a. Est-ce que c'est la fin de quelque chose? Est-ce que c'est le début d'autre chose? Bon. Pas question de dire dans le marc de café, hein, mais en tous les cas, il y a des agrégats qui se font et qui font que de toute façon le combat il est jamais terminé. Bien sûr, va y avoir toutes les vagues successives d'électoralisme qui vont arriver.
Ah oui, les élections. Hein,
ça,
ah.
C'est sûr que, bon, quand on a des animateurs du mouvement social dont le rêve est de mourir dans leur lit, c'est pas extrêmement...
avec une écharpe tricolore,
c'est
ça, ouais,
c'est pas forcément bon, alors, très, très réjouissant, mais bon.
Voilà, avant de se quitter, on va quand même parler de ce qui va se passer, qui devrait se passer sur Reims dans les prochaines semaines. Alors,
ah oui.
D'après ce que l'on sait, le 13, jeudi 13 à 18h30, de 18h30 à 20h30, la retraite au flambeau.
Pas avant, pas après. Hein.
C'est donc au centre-ville, comme d'habitude. Ensuite, quand pour d'habitude j'exagère, il n'y en a eu qu'une. Ensuite, le lendemain, ce sont les profs qui essayent d'accueillir, comme il se doit, la nouvelle rectrice devant le rectorat. Et le 20 février, donc, c'est aussi un jeudi, le jeudi 20 février, il y a une manifestation interprofessionnelle, ça sera la 11e. Alors, je crois que c'est la 11e ou la 10e, je sais plus, la 10e.
Eh ben.
La 10e, enfin, je sais plus. Alors, peut-être, à Reims, on l'a quand même attendu. 9 manifs pour avoir un autre parcours que celui habituel du centre-ville, de la place d'Arlon, etc. Il a fallu attendre 9 manifs pour effectivement avoir ce truc-là. Bon, alors on va se quitter et puis on espère qu'on se retrouvera dans la rue.
Dans la rue.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
C'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'était Régor. Chaque semaine sur l'Écho des Garrigues à Montpellier, Canassus à Toulouse, à Local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussi libertaire.l'autre.net et sur le blog du Chat Noir 51.